Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Babel Pongo Masimango.
Madame, Monsieur, bonjour. Naufrage de la pirogue motorisée satellite Kaboulou 1er au lac Kivu entre Idjou et Kalé au sud Kivu. Le bilan provisoire est revu à la hausse. On parle désormais d'au moins 2 morts, 20 disparus et 23 rescapés. Dans ce journal aussi, l'amélioration des conditions de détention dans les prisons de la RDC. Le sujet a été hier au centre d'une rencontre à Bunia entre le ministère de la Justice, la MONUSCO et le gouverneur de l'Ituri. Occasion pour nous de faire le point de la situation de la prison centrale de Bunia qui compte aujourd'hui plus de 400 détenus malades, notamment de malnutrition. Notre invité est Marie Nyangé Ndambo, ministre nationale de l'Environnement, Développement durable et de la Nouvelle Économie du Climat. Elle nous parle de la première édition de la conférence sur l'agriculture, l'environnement, le tourisme et l'eau qu'elle a ouverte hier à Kindu. Pour elle, le Maniema représente une opportunité majeure pour le projet Couloir vers Kivu, Kinshasa. Ce journal part du sud Kivu. Au moins 2 morts, 20 disparus et 23 rescapés. C'est le nouveau bilan, encore provisoire, du naufrage d'une pirogue motorisée survenue mardi sur le lac Kivu entre Idjou et Kalé. L'embarcation, connue sous le nom de satellite Kaboulou 1er, provenait du marché de Sakiro dans la chefferie de Rubenga à destination de Makengere dans le territoire de Kalé. Des détails avec Bernard Denyangi.
Selon les sources de la société civile de Calais, la cause principale du naufrage serait le surchargement de la pirogue, combiné aux fortes vagues observées sur le lac Kivu dans l'après-midi du mardi 7 avril. La pirogue transportait plusieurs dizaines de passagers, ainsi que des produits de première nécessité. À ce stade, seuls les corps d'un enfant et d'une femme ont été repêchés, puis inhumés. Au moins 20 personnes, parmi lesquelles plusieurs femmes, quelques hommes et des enfants, demeurent introuvables. Des sources indiquent que ce bilan reste provisoire, l'embarcation ne disposant d'aucun manifeste permettant de connaître avec exactitude le nombre de passagers à bord. Les autorités administratives du village Kaboulou 1, dans le groupement Mbinga Nord, précisent que les disparus seraient majoritairement originaires des villages Mokengere, Mweha, Bukanyi, Nyabishonga et Rosazi. Parmi les survivants, au moins 10 ont été pris en charge dans les structures médicales. La société civile appelle à l'intervention urgente du gouvernement congolais et de ses partenaires humanitaires pour renforcer les recherches, mais aussi pour mettre en place des mécanismes de prévention face à la répétition de tels drames dans cette partie du lac Kivu.
Restons dans le secteur du transport, du côté terrestre cette fois-ci. Il y a hausse du prix de transport en commun depuis hier mercredi dans la ville de Kalemie, province du Tanganyika. À la base, le déclenchement par la Direction générale de recettes du Tanganyika de l'opération de recouvrement forcé des taxes de contrôle technique et de l'autorisation du transport. Autre facteur, c'est l'augmentation du prix du litre d'essence à la pompe. Du coup, les transporteurs ont revu le prix de la course à la hausse. La Fédération des entreprises du Congo, FEC Tanganyika, promet de donner des éclaircissements au sujet des secteurs actés du carburant. Le point avec Paulin Munanga.
Une course de 1000 francs congolais, par exemple, est passée à 2500 francs congolais, voire plus. Pour les conducteurs des voitures, tricycles ainsi que des motos, le prix du litre de l'essence est passé de 3200 francs congolais ou 3500 francs à 6000 voire 7000 francs congolais. En plus, il y a l'opération de recouvrement forcé des contrôles techniques et de l'autorisation des transports déclenchée par la Direction générale des recettes du Tanganyika qui explique la hausse du prix des transports en commun. On écoute tour à tour un transporteur et un client. Lorsqu'un assujetti qui est motocycliste ou un responsable d'une moto achète ses documents, mais il ne constate qu'il n'y a aucun impact. Après des années, ces mêmes taxes reviennent encore. Du côté de ceux qui perçoivent la taxe, il n'y a pas le devoir de redevabilité. Je viens de Moukoukou jusqu'à Kisebwe. J'ai payé 3000 francs congolais. Et pourtant, auparavant, on payait 1500 francs congolais ou 2000 francs congolais si vous êtes à deux sur une moto. Je manque même l'argent des transports pour le retour. Et je suis obligé de marcher à pied. Dans un communiqué ce mercredi, le maire de Kalemie appelle les transporteurs en commun à appliquer les prix de 1000 francs congolais ou 1500 francs congolais par trajet. Lubumbashi, Paulin Munanga, Radio Okapi.
Comment renforcer la réflexion sur la réhabilitation et la construction des infrastructures pénitentiaires pour un bon hébergement des prisonniers et détenus? Cette question était au centre d'une rencontre mercredi hier dans Kabunia entre une délégation mixte au ministère de la Justice, MONUSCO et le gouverneur militaire de l'Ituri. L'objectif, s'imprégner des problèmes de détention dans la prison urbaine de Bunia. Que retenir de cette rencontre, Martial Kizabiamungu?
Les discussions entre le secrétaire général à la justice et les gouverneurs des provinces de l'Ituri ont porté sur trois axes principaux, la réhabilitation et la construction des infrastructures pénitentiaires, l'approvisionnement des prisons à vivre et non vivre et le suivi des conditions de détention dans les respects des droits humains. Selon Boto Blolimbating, secrétaire général à la justice, cette démarche vise à évaluer les fonctionnements de l'administration pénitentiaire dans les contextes de l'état de siège. L'objectif étant d'obtenir un engagement renforcé des autorités pour améliorer les conditions de vie du détenu.
On va se rendre à la prison centrale de Bounia pour faire les constats. La question de l'approvisionnement des prisons en vivre et non vivre. Et enfin, la question des droits de l'homme, beaucoup plus dans les secteurs des prisons.
De son côté, le gouverneur de l'Ituri estime que cette rencontre constitue une opportunité pour réaffirmer l'engagement de son administration en faveur du respect des droits humains dans les établissements pénitentiaires. Il insiste également sur la nécessité de restaurer l'autorité de l'État dans les entités où sont installées ces maisons pénitentiaires. Bounia, Martial Kiza Biamungu, Radio Okapi.
Concernant justement les conditions de vie dans les lieux de détention en Ituri, sachez que plus de 280 détenus souffrent de malnutrition, 75 autres de tuberculose et plus de 70 hernies à la prison centrale de Bounia. En cause, l'irrégularité des subventions alimentaires du gouvernement aggravée par la surpopulation carcérale. Ce tableau préoccupant des conditions de détention a été présenté hier mercredi au secrétaire général du ministère de la Justice en visite dans cet établissement pénitentiaire. Qu'en est-il, Isaac Rémo?
À la prison centrale de Bounia, les conditions de détention sont particulièrement précaires. Le manque de subventions alimentaires oblige la direction à s'approvisionner à crédit pour nourrir plus de 2100 détenus. Selon ses responsables, chaque détenu ne reçoit qu'une ration très insuffisante par jour. Conséquence, la malnutrition touche déjà plus de 280 détenus. Par ailleurs, 75 cas de tuberculose ont été enregistrés. Les malades sont isolés afin de limiter la propagation de la maladie. Plus de 70 autres détenus souffrent des hernies nécessitant des interventions chirurgicales. Malgré ces conditions difficiles, le directeur de la prison affirme qu'aucun décès n'a été enregistré depuis le début de l'année grâce notamment à l'appui des partenaires comme la MONUSCO et le Comité international de la Croix-Rouge. Cependant, il appelle les autorités à agir en urgence pour améliorer les conditions de vie des détenus. Camille Zonzi.
J'ai aimé les visites chez nous ici à Bounia à la prison pour palper du doigt la réalité, comment nous fonctionnons, parce que nous sommes les ambassadeurs en province. J'ai fait à passer aussi le problème alimentaire. Je leur ai expliqué comment j'ai à maintenir le cap par rapport à cette situation.
En réaction, le secrétaire général au ministère de la Justice a promis de porter ses préoccupations auprès des autorités compétentes. Bounia, Isaac Remoyop et Radio Kapi.
Dans les territoires de Lubero, Nord Kivu, 67 cas de violence basée sur le genre ont été enregistrés dans les zones de santé de Biena et Mangorejipa au cours du premier trimestre 2026. Ces chiffres ont été rendus publics hier mercredi par l'organisation non gouvernementale Femmes Juristes pour les droits de la femme et de l'enfant, une organisation basée dans la région. Son chef d'antenne, Gélas Mumbere, évoque notamment des cas de viol et de violences sexuelles touchant des enfants. Il appelle les victimes à dénoncer. On l'écoute au téléphone de Martial Papi Mukeba.
67 cas de violences basées sur les genres documentés en zone de santé Biena et Mangurejipa de décembre 2025 à mars 2026 sont pour la plupart les cas de violences sexuelles, dont les viols, les mariages forcés, le harcèlement sexuel, le trafic et exploitation d'enfants pour des faits sexuels. Il y a aussi les cas d'agression physique, agression psychologique et le déni des ressources. Les auteurs sont les porteurs d'armes et les personnes civiles. Et les victimes sont pour la plupart les personnes déplacées internes ainsi que les retournées. À la police et au parquet de ne pas favoriser l'impunité qui est l'un des facteurs de ces violences basées sur le genre dans la région. À la population locale et aux victimes, de dénoncer tout cas de violence afin de pallier les conséquences et bénéficier de la prise en charge médicale, psychosociale et juridique qui est encore gratuite.
Pour le moment, nous n'avons pas obtenu la réaction des autorités locales. Au moins 4 personnes ont été tuées, 10 d'autres grièvement blessées et plusieurs maisons incendiées. Tel est le bilan provisoire d'un conflit qui oppose depuis mardi les habitants du village de Benakasinga dans le groupement de Kajangaji à ceux de Bakwanga dans le groupement de Kalunga en territoire de Dibaya au Kasaï central. Selon nos sources sur place, ces affrontements sont liés à un litige foncier qui remonte à plusieurs décennies. La société civile locale déplore l'absence d'intervention des forces de l'ordre et appelle les autorités politiques, militaires et policières à s'impliquer rapidement afin d'éviter une aggravation de la situation. Des détails avec André Katendengalamouloumé.
Les affrontements ont éclaté mardi lorsque des habitants de Benakasinga ont traversé la rivière Moyo pour cultiver des champs situés à Bakwanga, rapportent plusieurs sources concordantes. D'après la structure Debout Congolais pour le développement durable, DCDD, le bilan provisoire fait état de plusieurs maisons incendiées, des blessés graves et des morts. Parmi les victimes figure un homme de Benakasinga, âgé d'une 50aine d'années, tué mercredi. Certains blessés ont été transférés à l'hôpital Saint-François de Koé pour y recevoir des soins. Martin Mutelawa Kasunga, coordonnateur territorial de la DCDD, appelle les autorités à intervenir en urgence afin de rétablir la paix entre les deux communautés.
Nous demandons l'implication des autorités, tant territoriales que provinciales, d'intervenir dans ces dossiers. S'il n'y a pas l'implication des autorités, il y aura toujours des dégâts et l'écoulement du sang dans les territoires de Dibaya.
Contacté à ce sujet, l'administrateur du territoire de Dibaya indique qu'un conseil de sécurité est en cours et a promis de se prononcer incessamment sur cette situation. Kananga, André Katendengalamouloumé, Radio Okapi.
La contribution des chambres hautes des parlements à la consolidation de la démocratie et à la préservation de la paix, c'est le thème de la première conférence annuelle de l'Association des Sénats d'Afrique, ouverte hier à Rabat, au Maroc. Prenant la parole à cette occasion, le président du Sénat congolais, Jean-Michel Samalukonde, a appelé à la mobilisation des parlementaires africains face à la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo, situation marquée par la guerre du 1-23 soutenue par le Rwanda. Il a également plaidé pour une implication des instances africaines en faveur du respect des résolutions des Nations Unies et de différents accords de paix signés entre les parties, notamment l'accord de Washington et celui de Doha. On écoute Samalou Kondé dans cet extrait proposé par Grace Hamzati.
Le thème retenu tombe à point nommé dans un contexte africain en particulier et mondial en général, caractérisé par des conflits qui menacent tant la paix que la démocratie. Concernant la République démocratique du Congo, je rappelle qu'elle fait l'objet d'une guerre d'agression injuste de son voisin, le Rwanda, qui instrumentalise et manipule des groupes armés, notamment la FCM-23, qui sème la mort, la désolation dans sa partie est depuis maintenant plus de 30 ans. Cette agression injuste s'ajoute l'activisme des mouvements terroristes, ADF. Les chambres hautes des parlements d'Afrique, qui sont par essence l'expression vivante de la démocratie, parce que issus de l'expression des peuples, ont l'opportunité de jouer un rôle stratégique dans le cadre de la diplomatie parlementaire pour interpeller nos États et gouvernements à préserver la paix dans notre continent par des recommandations courageuses qui appellent à la cessation des conflits.
À Kinshasa, la pose d'angles artificiels s'impose désormais comme une véritable tendance. Vernis permanent, gel, manucure sophistiquée, les femmes de tout horizon s'y adonnent pour rester à la mode et soigner leur apparence. Mais derrière cet engouement et l'usage prolongé de ces techniques, parfois pendant plusieurs mois, des inquiétudes se font jour. Les dermatologues alertent sur les risques que ces poses peuvent engendrer, tant pour la santé des angles naturels que pour la peau. C'est un reportage signé Séphorin Paka.
Les métiers de vernisseur connaissent une véritable expansion dans la ville de Kinshasa. Dans plusieurs communes et quartiers, la pose d'ongles artificiels vernis permanent ou gel est devenue une tendance incontournable. Malgré un coût élevé, entre 10 et 35 dollars, contre 1500 et 3000 francs congolais, pour une manucure simple, les clientes ne s'en plaignent pas. Chacune s'adapte à ses moyens. Une vernisseuse rencontrée à Lingwala témoigne.
Je pose du vernis simple et du permanent. Avec le permanent, ça demande du temps car les clients exigent des styles propres qui durent longtemps.
Inhabituée de cette pratique, se confie sur le temps qu'elle gagne grâce à cette manucure.
Moi, je préfère ça parce que ça prend un ou à deux mois avant que ça soit abîmé de nouveau.
Cependant, cette mode n'est pas sans conséquences. La dermatologue, grâce à Bedi, met en garde contre les risques liés à l'utilisation prolongée de vernis permanent et du gel qui peuvent fragiliser les ongles et irriter la peau.
La transmission des microbes, si les matériaux ne sont pas très bien entretenus et l'exposition répétée des lumières ultraviolettes expose au vieillissement de la peau et au risque de développer un cancer.
Ainsi, entre esthétique et bien-être, les femmes de Kinshasa jonglent désormais entre les avantages et les risques d'une tendance devenue presque incontournable au quotidien.
Actualité internationale.
Au Sénégal, des centrales syndicales ont manifesté hier dans les rues de Dakar pour dénoncer le non-respect du pacte national de stabilité sociale signé entre le gouvernement, les syndicats et le patronat. Parmi les principaux points de tension figurent les licenciements jugés abusifs, un système de rémunération dans la fonction publique considéré comme inéquitable et opaque, ainsi que la question des indemnités de logement. Pour la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, la responsabilité incombe directement au Premier ministre Ousmane Sonko.
L'invité.
Il s'agit aujourd'hui de la ministre nationale de l'Environnement, du Développement durable et de la Nouvelle Économie du Climat, Marie-Niangé Ndambo. En ouvrant la première édition de la conférence sur l'agriculture, l'environnement, le tourisme et l'eau hier à Kindu, elle a indiqué que la province du Maniema représente une opportunité majeure pour le projet Couloir vert Kivu-Kinshasa. Marie-Niangé Ndambo s'entretient avec Florence Kizalunga.
Madame Marie-Niangé, bonjour.
Bonjour, madame.
En ouvrant la conférence sur l'agriculture, l'environnement, le tourisme et l'eau dans la province d'Imanima, vous venez de parler de ces projets sur les couloirs verts. Que peut-on tout d'abord, en bref, attendre de ces projets?
Les couloirs verts, c'est une initiative privée du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a voulu créer une aire protégée communautaire qui devrait relier l'est à l'ouest de la République et qui a une super superficie presque de 540 000 km carrés, presque la dimension de la France. Et cette aire protégée a pour objectif de développer l'économie verte et surtout d'améliorer les conditions de vie des populations et des peuples autochtones.
Alors, quelle opportunité qui présente ces projets couloirs verts dans cette province d'Imanima?
Une grande opportunité parce que ça va interconnecter les provinces par lesquelles passent ces couloir et les Maniements, en tant que grande province forestière, devra tirer tous les biens de ces macro-programmes du président de la République.
Bien qu'étant un projet ambitieux, mais on sent qu'il présente des défis.
Le premier défi, c'est la préservation de la biodiversité. C'est travailler, développer l'économie de sorte que ça ne touche pas à la biodiversité. Et pour ce faire, il y a trois zones principalement. Il y a les tiers de cet espace qui est occupé par des forêts intactes, c'est-à-dire des forêts où l'homme n'est jamais entré, et puis l'autre tiers est occupé par des forêts vierges où l'homme est entré juste pour aller chercher des produits forestiers non lignés, et puis l'autre tiers qui est occupé par la petite agriculture familiale. Et ça va être là l'occasion aussi pour réhabiliter les zones dégradées par l'agriculture itinérante sur Brilly.
Alors, Madame la Ministre, quelle position qu'occupe la province d'Imanima dans ces projets?
C'est une position stratégique parce que d'abord, le Maniema est une grande zone forestière. Je peux même dire que le Maniema est encore vierge, en ce sens que le Maniema n'a pas connu de grandes exploitations minières comme d'autres provinces minières, parce qu'il faut dire en passant que le Maniema, c'est une zone minière aussi. Mais elle n'a pas connu de grandes exploitations, même si à certains endroits l'environnement est dégradé dans les zones de l'assaquiment. Mais nous sommes en train de travailler pour réhabiliter ou restaurer ces espaces-là. Et le Maniema, à travers ces programmes, va avoir là la possibilité de se connecter à d'autres provinces et de faire en sorte que son économie et son social s'améliorent. D'ailleurs, c'est la vision principale du président de la République. et du gouvernement de Madame Judith Suminwa qui tient à améliorer les conditions de vie des populations et des peuples autochtones. Mais les conditions de vie des populations ne peuvent s'améliorer qu'à travers une économie forte, une économie qui marche. Et ici, à travers ces programmes, on va créer des emplois verts, on va donner de l'emploi et des revenus aux populations.
Madame Nyangé, que dites-vous par rapport à cette demande de la province? Vous l'avez bien suivi lors de son discours. Le gouverneur a voulu à ce que vous apportiez un soutien pour que la province du Maniema puisse rayonner et que les crédits carbone deviennent une réalité. Comment comptez-vous vous comporter par rapport à cette demande de l'autorité provinciale?
Comme j'ai dit à son excellence, monsieur le gouverneur de la province du Maniema, il faut préparer des projets, il faut qu'il y ait une équipe qui travaille sur la formulation des programmes et des projets. Et c'est seulement à ce prix-là qu'on pourra aller capter le financement à l'international, parce que dans le domaine du climat, il y a quand même pas mal de financement. Mais pour ce faire, il faut avoir des outils en main pour le faire. Et j'ai entendu le gouverneur expliquer son programme très innovant. Je pense qu'avec ce programme, le gouverneur sera en mesure d'aller capter le financement pour améliorer les conditions de vie des populations du Maniema.
Madame Marie Nyang, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Marie Nyang Ndambo, ministre national de l'Environnement, du Développement durable et de la Nouvelle Économie et du Climat. Voilà qui met fin à ce journal. Alain Rung et les étiquotatives l'ont préparé. André Mongou, la mise en onde. À vous qui nous avez suivis, merci de votre attention. Bon après-midi.